Oh yes.
Hey, non, mais c'est la rentrée.
Rien de moins.
Alexis, il nous met quand même vraiment souvent des extraits comme ça, sans me prévenir avant. Puis une fois sur deux, je fais, qu'est-ce que c'est ça? Mais là, on est dans la fois sur deux où c'est comme, on dirait que ça m'a fait du bien.
Ben oui.
Ce petit bruit-là d'école, la cloche qui sonne, les enfants contents, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu ça. Demain, j'ai comme l'impression que la province, mettons tout ce qui se passe à l'est de Montréal, là, va vibrer au son des cloches d'école retentissent.
Première fois depuis 2 mois.
Ça recommence demain. Pour les écoles primaires, en tout cas la plupart. J'ai l'impression que ça va être une rentrée un peu tout croche, mais d'un sens, c'est normal. Il y a quelque chose de normal dans le tout croche, même si on essaye que ce soit... On veut pas mettre la vie de personne à risque puis la santé, mais on s'entend que ça va être une rentrée, disons, particulière.
Ben oui.
On en discute ce matin avec José Scalabrini, président de la Fédération des syndicats de l'enseignement. Madame Scalabrini, bonjour.
Bonjour à vous deux.
J'ai envie de vous demander, Madame Scalabrini, est-ce que vous êtes prêt et prête pour le retour à l'école demain?
Quand vous dites tantôt, c'est une rentrée qui va probablement se faire tout croche. Qu'elle se fasse tout croche, ça c'est une chose. Les enseignants sont prêts à toutes les imprévus de cette rentrée-là. Ce qu'il faudrait pas, c'est qu'elle ne soit pas sécuritaire.
C'est ça.
Vous savez, un enseignant, c'est aussi un citoyen. Un enseignant, ça fait partie de la population. Puis parmi les enseignants, t'as des gens qui sont anxieux et t'as des gens qui ont peur de rien. Ça va très bien depuis le début. Donc, de nos enseignants, t'as des gens qui vivent ça demain. Ce qu'il faut, c'est que dans les milieux, on ait respecté les directives de la santé publique. Vendredi, quand on s'est quitté, nous, les dernières données qu'on avait, il manquait encore beaucoup de produits désinfectants. Tous les locaux n'avaient pas fini d'être ajustés. Tous les titulaires n'avaient pas été attribués à une classe comme telle. Donc, ça vient augmenter le niveau de sécurité. On nous a dit que ça devait se régler en fin de semaine. J'ai pas eu les derniers chiffres ce matin. Je sais pas où on en est rendu.
Ça fait que là, on est dimanche. Puis en gros, on sait pas si on a assez de classes, assez de profs pour demain, assez de matériel désinfectant, puis tout ça.
Non, vendredi, ce n'était pas sûr partout. Et pourtant, on a eu un premier ministre qui est en point de presse, toujours en surprise en point de presse, nous avait annoncé que cette rentrée-là se faisait de façon sécuritaire, toujours dans le respect des directives de la santé publique. Fait que nous, demain matin, ce qu'on dit aux enseignants, garde, à l'impossible, nul n'est tenu, là. Faites-vous confiance. Vous êtes les experts du terrain. Vous savez comment réagir avec des enfants. On va avoir des enfants à sécuriser. On va avoir des enfants qui ont vécu de drôles de choses dans les 2 derniers mois. Dans des familles, ça allait très bien, puis tout le monde était zen. Dans des familles, il y avait plus d'anxiété.
Ouais.
Donc, on sait fort bien qu'on s'en va pas demain dans de la consolidation de matière. On s'en va pas dans de nouveaux apprentissages. On s'en va réapprivoiser une nouvelle façon de faire l'école dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Faut le faire au rythme de chacun. Puis je dis souvent à nos enseignants qui sont plus perfectionnistes, là, acceptez qu'on va faire des erreurs, acceptez qu'on sera pas parfait. Puis il faut que les parents aussi acceptent de le vivre avec vous. Oui, il va y avoir des insatisfactions, des parents qui vont trouver qu'on en demande trop, des parents qui vont trouver qu'on en demande pas assez. Mais faites-vous confiance là-dedans. C'est tout le monde ensemble qu'on va réapprivoiser cette nouvelle école-là.
Quand on regarde la proportion d'enfants qui seront présents à l'école versus ceux qui vont rester à la maison parce que les parents, pour des raisons sincèrement qui leur appartiennent, il y a personne qui est tenu absolument d'envoyer son enfant à l'école. Certains, c'est pour des raisons de santé, bon, X, Y. On est à peu près dans quel genre de proportion? Je présume que ça doit changer d'une région à l'autre, là, mais en moyenne, on est à peu près dans quelle proportion des enfants qui vont être à l'école?
Ça varie même d'une école à l'autre. Hein? C'est pas juste d'une région à l'autre. Ça peut jouer entre 50% à aller jusqu'à 80%. Et c'est ce qui a déstabilisé le gouvernement, parce que en annonçant le volontariat, ils pensaient pas qu'il y aurait tant de retours. Et là, on a été pris parce qu'on avait dit, il y a des enseignants du secondaire qui vont être à la maison et les enseignants de 60 ans qui ont des maladies chroniques, eux autres vont faire le suivi avec les enfants à la maison. Et oups, là, on s'est rendu compte qu'on avait besoin de plus de monde. Ce qui a fait que le hasard, vous savez, c'est quoi le hasard dans la vie? On a ramené une balise qu'on avait mis à les enseignants de plus de 60 ans doivent rester à la maison. Ah là, oh, non, les statistiques nous disent, pas de problème, revenez avec nous. On a demandé à des titulaires du secondaire et de venir prendre des classes. Et ça crée encore beaucoup énormément d'insécurité. Moi, j'aime toujours faire le comparatif, là. On connaît tous des hommes qui travaillent dans la construction. Mais dans la construction, là, le plombier va pas aller faire le travail de l'électricien, puis l'électricien fait pas nécessairement ce que le peintre en bâtiment ferait.
Ben, en même temps, Mme Scalabrini, je vous avoue qu'en situation de crise comme celle dans laquelle on se trouve, j'aime mieux que ce soit un plombier qui fasse la job d'électricien que moi, par exemple, qui risquerait de tuer tout le monde.
Ben, surtout qu'il n'y a pas vraiment... Si l'électricité, ça pourrait être dangereux. Là.
Mais surtout que, comme vous le dites vous-même, il n'y a pas tellement de job d'enseignement à faire. Alors que ce soit un prof du secondaire qui fait de la consolidation, comme vous dites, puis de l'adaptation à une nouvelle façon d'enseigner, je ne suis pas sûr que ce soit bien grave.
Mais ça n'empêchera pas de vivre une insécurité. Quand tu es habitué de réagir avec des grands adolescents de 14, 15 ans, puis là, tu vas réagir avec des petits de 5 ans, de 6 ans, c'est pas la même approche. Même au secondaire, moi, j'étais une enseignante du secondaire. Puis mon secondaire 3 puis mon secondaire 1, là, c'était un monde de différence. C'était pas la même approche, c'était pas la même façon. Fait qu'il y a des gens insécures. Les enseignants sont habitués de se revirer sur un dissous. Ils vont faire le travail. Mais moi, je dis que tout le monde devrait être conciliant. Tout le monde. Faut pas qu'on fasse reporter que sur les épaules du personnel de l'éducation. Tout ce stress qui va se vivre dans les prochains jours, c'est tout le monde ensemble. Et les parents, et les citoyens, et l'enfant, et le personnel de l'éducation. On veut le vivre ensemble, il faut le vivre correctement.
Mais Mme Scalabrini, sincèrement, j'ai peut-être pas l'expérience que vous avez, ça c'est clair, là, mais pour avoir travaillé avec des enfants de 4 à 14 ans à peu près pendant une dizaine d'années, c'est sûr que c'est vraiment pas la même affaire, c'est pas la même approche, c'est pas les mêmes besoins. Mais donc c'est sûr que ça va générer de l'insécurité un peu ou du stress chez les profs. Mais on est en pandémie, là. De l'insécurité et du stress, il y en a partout là.
Et ça, vous m'avez jamais entendu dire le contraire et vous nous avez jamais entendu dire qu'on ne voulait pas être au rendez-vous, qu'on voulait pas faire notre part, là. On est là pour le faire, on est là pour sécuriser les gens. Mais tout ce que je dis, c'est faut comprendre que tout le monde va avoir à s'adapter. Puis demain matin, ça se pourrait que ce soit le chaos à des endroits, là. Moi, je fais juste dire, regardez les adultes présentement qui vont à l'épicerie, à la pharmacie faire des commissions, là. Les adultes qui seraient supposés d'avoir intégré des façons de faire, le 2 mètres, les lignes sur le petit plancher, là, il n'y a pas un adulte qui le fait, puis c'est pas de mauvaise foi, là. C'est juste qu'on n'a pas développé ces nouvelles façons de faire, là. Fait que pour un plus petit, là, va falloir répéter. Enseigner, c'est répéter, je l'ai souvent dit, mais là, Dieu sait que dans les prochains jours, on va énormément répéter et va falloir que l'enseignant se fasse confiance là-dedans, puis que l'enseignant dise toujours en sécurité, là. Moi, je le ramène toujours. Non, vous n'avez pas à mettre la sécurité de côté. C'est pas pour rien que la santé publique existe. C'est pas pour rien qu'ils ont mis des directives. Faites-vous respecter dans cette sécurité-là. Et pour le reste, là, tout le monde va faire son possible et à l'impossible, nul n'est tenu.
Mais pour ce qui est des profs qui, par exemple, auraient pas de conditions de santé particulières qui les met à risque au COVID, seraient, on va dire, dans la trentaine, donc un groupe d'âge qui est pas particulièrement à risque non plus, mais qui décideraient pour des raisons pour des craintes personnelles ou à cause du stress, de ne pas rentrer travailler, est-ce qu'il est rémunéré quand même?
Ça, c'est chacune des commissions scolaires qui le gère. Est-ce qu'ils leur ont fait faire à certaines personnes du télétravail, de l'accompagnement? Il y en a qui se sont fait dire que non, ils n'étaient pas rémunérés. Est-ce qu'il y a un billet médical qui peut permettre qu'ils ne sont pas là? S'il n'y a pas de billet médical, non, ils ne doivent pas être rémunérés. Si vous n'êtes pas rentré, vous, ce matin, et que les conditions vous permettent d'aller à la radio, hein, vous ne serez pas payé si vous n'êtes pas rentré. Mais un enseignant qui décide de ne pas rentrer ne sera pas payé. Mais là, ça appartient à chacune des commissions scolaires de voir comment elle a géré ces niveaux d'anxiété-là et les raisons pour lesquelles des enseignants ne rentraient pas.
Merci beaucoup, Mme Scalabrini, pour votre temps aujourd'hui.
Me donnez-vous 30 secondes?
Ben oui, allez-y.
10 secondes. Parfait. C'est aujourd'hui la fête des mères.
Oui.
Les enseignants font partie de la population. La majorité des enseignantes sont des mères ou des grands-mères. Mais je veux juste dire à tout le monde qu'aujourd'hui, ça se passe pas comme vous l'auriez souhaité, comme vous étiez en raison de vous attendre que ça se passe une fête des mères. Mais j'ai une belle pensée pour toutes les mères du Québec.
C'est très chic de votre part. Merci, Mme Scalabrini, pour votre temps aujourd'hui.
Merci à vous.
Bonne journée. José Scalabrini est président de la Fédération des syndicats de l'enseignement. Un auditeur nous écrit, est-ce que le syndicat va contester le congédiement des déserteurs? Bonne question. On poursuit la discussion avec Kevin Roy. Il est président de la Fédération des comités de parents du Québec. Bonjour, Monsieur Roy.
Bonjour.
J'ai envie de vous demander, puis on voulait vous parler parce que, là, on vient de parler avec Mme Scalabrini de tout ce qui concerne les profs. Mais les parents aussi, c'est majeur là-dedans. Qu'est-ce que les parents d'élèves vous disent par rapport à la rentrée de demain? Est-ce qu'ils ont confiance que ça va bien se passer? Sentez-vous de l'angoisse parmi les parents?
Il y a une bonne part des parents qui ont confiance à ce qui va se passer demain, mais il y a une autre partie des parents là qui sont anxieux. Là, je dirais peut-être même à l'image de certains enseignants là, donc qui sont anxieux, qui aimeraient savoir, qui aimeraient avoir plus d'informations, plus de détails sur comment ça va se passer en temps réel là, techniquement demain matin à la rentrée.
Quel genre de communication d'envoyer aux parents pour les préparer à la rentrée?
C'est très variable, hein, d'une école à l'autre. Là, il y a des écoles qui ont fait un excellent travail, je pourrais dire. Il y a même des parents qui reçoivent des vidéos de leur classe là, pour montrer à leurs jeunes. Donc, ils savent déjà, leurs jeunes, où va être leur bureau, dans quelle classe ils vont être, avec quel titulaire qu'ils vont avoir, quel enseignant, quel prof va être là avec eux. Par contre, il y a d'autres endroits où que c'est les parents sont un peu plus laissés dans le néant. Donc, ça va être une surprise demain. Donc, on s'attend qu'il faut que les familles s'adaptent. T'sais, tout le monde s'adapte. C'est la première fois que ça arrive, une rentrée comme ça. Donc, tout le monde va s'adapter, sauf que il y a certains parents, puis même certains enfants là, qui restent quand même anxieux parce qu'ils n'ont pas beaucoup, ils ont pas reçu beaucoup d'informations. C'est pas tout le monde. Il y en a qui ont reçu beaucoup... Qui savent déjà là, en détail comment tout ça va se passer, mais il y a certains endroits là où qui n'ont pas eu de détails. Puis là, surtout pour les élèves du secondaire, là, la rentrée physique, là, c'est pour les jeunes du primaire, mais on nous a dit que certains parents reçoivent l'information comme quoi que pour le secondaire et pour les primaires qui vont rester à la maison aussi, que l'enseignement va être obligatoire. Donc, comment ça va se passer, cet enseignement-là, obligatoire, donc les évaluations et tout. Donc, ça, il reste des informations à recevoir là, à ce niveau-là.
J'ai des échos de parents qui avaient décidé d'envoyer leurs enfants ou leurs enfants à l'école, mais qui commencent à changer d'idée parce qu'ils entrevoient justement que ça s'enligne pour être un peu tout croche. Est-ce que vous avez eu des échos de ça aussi?
Oui, il y a certains parents qui ont fait le choix d'attendre une semaine. Hein. Moi, j'ai entendu ça. J'en ai aussi dans mon entourage qu'ils vont laisser une semaine aller pour voir comment ça va se passer à l'école, pour voir les retours qu'il va avoir, pour laisser l'école le temps aussi de s'adapter, puis qu'ils vont prendre leur décision un peu plus tard. Il y en a qu'il y a des parents que eux, aussitôt que l'école aussitôt que le ministre a annoncé la réouverture des écoles, donc qui était heureux, qui avait hâte de retourner les enfants, que les enfants aussi avaient hâte un peu de retrouver une partie de leur vie d'avant, une partie de leur vie normale. Il y a d'autres parents que eux, c'est catégoriquement, c'est d'emblée, c'était non. Ils préféraient attendre en septembre pour des raisons personnelles, pour leurs raisons. Mais il y a d'autres parents qui étaient un peu qui attendaient d'avoir plus d'informations pour prendre leurs décisions. Donc, je comprends qu'il y a certains parents qui attendent d'avoir une pratique aussi. Puis, ils aimeraient mieux envoyer leur enfant pendant la deuxième semaine de la réouverture des écoles.
OK. Je comprends. Merci beaucoup, M. Roy, d'avoir pris quelques minutes pour nous.
Merci, puis bonne fête des mères à toutes les mamans qui vous écoutent.
Merci.
Bonne journée.
Merci beaucoup de la part de toutes nos auditrices mamans. Kevin Roy, président de la Fédération des comités de parents du Québec. Je retiens une chose avant la pause que je veux commenter, puis ça me fatigue parce que ça me trotte dans la tête depuis une couple de semaines. Là, on est dans un moment, on est en pandémie, hein, donc tous nos systèmes sont chamboulés, je vous apprends rien. Puis on a des gros systèmes, hein, le système d'éducation, le système de la santé qui réunit plein d'organismes, des milliers de travailleurs, c'est complexe. Plusieurs instances de hiérarchie, toute la patente. Et il y a des directives qui partent directement du gouvernement, dans lesquelles il y a des fonctionnaires, des spécialistes qui sont engagés par le gouvernement pour rédiger comme il faut que ce soit clair la directive, qui est prise par l'autorité suprême qu'est, mettons, le ministre de l'Éducation, la ministre de la Santé, en concertation avec le gouvernement. À partir du moment où cette directive-là, par exemple, je vais donner un exemple, dans les CPE, il faut que les éducatrices, à partir de lundi, portent masque, visière et blouse. Il faut qu'ils désinfectent tout. Voici le protocole de désinfection. Bon. Ça, c'est une directive gouvernementale. Autre exemple de directive gouvernementale, les écoles primaires ouvrent le 11 mai et donc voici la marche à suivre. Il faudra que les récréations ne soient pas en même temps pour tout le monde. Maximum 10 enfants dans la cour, maximum 15 enfants par classe. Ça, c'est des directives. Comment ça marche, là? Parce que, tu sais, M. Roy, il nous disait, là, c'est pas pour rien que j'ai demandé c'est quoi les communications qu'on envoyait aux parents. Il dit, ouais, ben ça varie d'une école à l'autre. Ça, c'est pas normal. Mm. C'est vrai que d'une école à l'autre, la réalité n'est pas nécessairement la même. Ça, c'est vrai. Puis il faut adapter ces choses-là à la réalité de chaque école, de chaque quartier, dans chaque ville et dans chaque région. Mais c'est pas normal que les parents reçoivent une communication de la part de l'école, que les profs reçoivent une autre communication différente de celle des parents de la part d'école, que le syndicat reçoive une communication différente de la part de l'école. Donc, que vous comprenez que la directive qui part du gouvernement, elle s'en va aux commissions scolaires. Rendu là, il y a des gens aux commissions scolaires qui la réinterprètent et qui la reproduisent en fonction de ce que eux jugent plus important.
Et de façon différente d'une commission scolaire à l'autre.
Évidemment.
Déjà, il y a une modification.
Première modification. Ensuite, la commission scolaire l'envoie dans toutes ses écoles. Deuxième modification, l'école prend la communication de la commission scolaire puis dit « OK, ben là, nous autres, on va garder ça, on va enlever ça, on va faire ça comme ça pour les parents, on va prendre ça pour les profs, c'est plus important, on va envoyer ça au syndicat. » Et là, on se retrouve au bout de la chaîne avec 45 messages différents.
Oui, mais tu as lu aussi cette semaine la lettre de la professeure que t'en fait jaser à Montréal qui dénonçait son syndicat, qui disait que aussitôt qu'on a reçu la consigne comme quoi les écoles allaient rouvrir, le syndicat nous a dit vous êtes pas obligés d'appeler les enfants, vous êtes pas obligés de mettre sur pied tel plan, vous êtes pas obligés de faire telle affaire. Donc t'as ça aussi en plus qui rentre en ligne de compte. T'as le fait que bon, peut-être la directive a été donnée, mais si par la suite le syndicat dit ouais, mais t'es pas obligé de faire ça.
Mais l'affaire c'est tu sais, puis là on pourrait avoir la discussion sur la pertinence des syndicats là. Puis on l'aura pas là parce qu'il est 8h30, là. Mais mon point, c'est que la prochaine fois que dans un point de presse, vous entendrez une question d'un journaliste ou peu importe, à la ministre McCann ou au ministre Roberge de l'Éducation ou au ministre Lacombe de la Famille, quand la question ce sera « C'est drôle, vous avez donné telle directive, puis sur le plancher, ça marche pas. » Madame McCann, quand vous avez dit dans les hôpitaux, faut que ça se passe de telle manière, je lisais un autre article de TVA publié hier ou vendredi soir. Le titre, écoutez bien le titre, « Déconfinement des aînés, le message tarde à se rendre ». À partir de mercredi cette semaine, les aînés pouvaient sortir qui sont en résidence pouvaient sortir des résidences suivant un certain protocole. À partir de demain, les proches aidants peuvent aller aider dans les CHSLD, ils n'ont pas besoin de passer de test. Ça, c'est toutes des directives. C'est drôle, hein? Tu regardes dans les CHSLD puis ça marche pas. Les gens l'appliquent pas. La prochaine fois que vous entendez un ministre se faire demander pourquoi vous avez donné telle directive puis que ça fonctionne pas, si sa réponse est autre que c'est parce que ça a été trop modifié dans la machine à saucisses, il vous ment. Il vous dit pas la vérité. S'il vous dit, ben, on travaille fort, puis on a donné la directive, et puis évidemment, on surveille la situation de près, ça, c'est du bruit qu'ils font avec leur bouche. C'est de l'air, là, avec des cordes vocales qui vibrent. La réalité, c'est qu'à toutes les fois qu'il y a une directive ministérielle qui est envoyée dans un réseau quelconque, ça passe à travers une, deux, trois, quatre instances.
Ça part de l'étage d'en haut, puis c'est modifié à chaque étage en bas jusqu'à temps que ça arrive sur le terrain.
Puis c'est réinterprété. Puis au bout du compte, ben, le téléphone arabe a fait sa job. C'est ça. C'est pas la bonne directive qu'on applique.
On sait plus où on s'en va, puis il n'y a plus de coordination. Puis
alors qu'on travaille dans le vide, parce que tout le monde pourrait suivre la directive principale qui est envoyée, que ce soit les profs, les élèves, les parents, les commissions scolaires, les écoles, les directions, les employés de soutien. Tout le monde pourra avoir exactement le même document puis appliquer le même document.
Mais ce qui est le fun là-dedans, c'est que c'est jamais la faute de personne.